Bonsoir et bienvenue à tous dans la tribune de la presse de ce jour. Le président de la République, Joseph Kabila, a totalisé mardi 26 janvier 2016 15 ans à la tête de la RDC. Selon le porte-parole du gouvernement, le bilan du chef de l'État est largement positif du point de vue politique, sécuritaire et socio-économique, vous l'avez compris, c'est notre premier thème de ce soir. Et comme deuxième thème, le mouvement social pour le renouveau MSR de Pierre Lumbi fustige l'arrêté du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur du 23 janvier dernier portant enregistrement d'un nouveau parti politique avec comme dénomination Mouvement social pour le renouveau. Pour le porte-parole de ce parti, il s'agit tout simplement d'un acharnement politique du camp adverse. Et pour en parler, je reçois Fidèle Moussangou, journaliste et coordonnateur au journal Le Phare. Bonsoir Fidèle.
Bonsoir confrère.
Jean-Pierre Kayembe, journaliste à la radio-télévision du groupe L'Avenir RTGA. Bonsoir Jean-Pierre Kayembe.
Bonsoir Alain, bonsoir à tous.
Gaston Mouché de Bonsoir.
Bonsoir, merci.
Vous êtes directeur général de la radio-télévision Manica, émettant de Colésie dans la province du Lualaba. Merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue à tous dans votre émission. La presse quinoise a largement commenté ces sujets que nous abordons ce soir. Suivons la revue de presse avec vous, Kéline Couté.
Bonsoir. Commençons cette revue de presse par les 15 ans de Joseph Kabila à la tête de la RDC. Pour Forum des As, 15 ans à la tête d'un pays continent aux multiples crises et guerres récurrentes est un exploit, car, indique-t-il, son prédécesseur n'a pas eu autant de chance que lui, car assassiné après seulement 3 ans et demi de présidence. Le journal revient dans cet article historique sur les raisons de la longévité de Joseph Kabila au pouvoir, l'influence de Feu Katumba Mwenke et Samba Kaputo, et indique que le président de la RDC a bénéficié d'un environnement politique international qui lui était très favorable. Dans le même registre, le quotidien L'Avenir revient sur l'appel du chef de la diplomatie belge, L'Avenir, pour qui Didier Reynders a loué les efforts de Joseph Kabila. Le journal est d'accord avec Didier Reynders quand il déclare « Monsieur Kabila a réussi, avec l'aide des nombreux partenaires au cours de la dernière décennie, à sortir son pays d'une terrible guerre civile, à les réunifier et le stabiliser, même si des groupes armés continuent à sévir dans l'Est de la République démocratique du Congo ». Fin de citation. Mais quand Didier Reynders appelle le président congolais à parachever l'œuvre menée au cours de la décennie en assurant pour la première fois dans l'histoire de son pays une transition démocratique et pacifique, le journal estime qu'il s'agit d'un procès d'intention, d'autant plus que le président de la République ne s'est jamais dit qu'il rempilait. Restons en politique pour parler du séisme au sein du MSR. Député et sénateur rejette l'arrêté des Boshab. C'est la une du journal La Prospérité. Dans une déclaration politique, explique la consoeur, les députés nationaux et sénateurs du MSR, toujours fidèles à Pierre Lumbi et déterminés de se battre pour le respect absolu de la Constitution, ont demandé au vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur de retirer son arrêté du 23 janvier dernier, portant enregistrement d'un nouveau parti politique dénommé Mouvement Social pour le Renouveau MSR en sigle. C'est ainsi que le tabloïd Le Phare évoque le bras de fer entre Pierre Lumbi et Maître Yoko et relève que le MSR LMP brandit son arrêté d'un par le ministère de l'Intérieur. Retombée de l'arrêté portant agrément du parti issu du MNR, les élus du MSR LG7 menacés d'invalidation au titre Forum des As. Le parti nouvellement agréé menace d'invalidation les députés et sénateurs qui ne vont pas entrer dans les rangs, indique le journal, qui précise néanmoins qu'il n'y a pas un délai fixé, mais le parti ne fait pas mystère de sa volonté de mettre à exécution ces menaces. Et pour l'avenir enfin, le MSR L Pierre Lumbi fonctionner avec un arrêté de compromis politique du mouvement pour la nouvelle république MNR en sigle de Maître Yoko Yakembe et à l'adresse de celui-ci. C'est pour cette raison qu'il est interdit au MSR Pierre Lumbi l'utilisation de l'emblème et autres objets appartenant au MSR car agir autrement l'exposerait à des poursuites judiciaires, conclut le journal.
Merci Kéline Côté, Fidèle Moussangou, journaliste et coordonnateur au journal Le Phare. Cette semaine était très riche en actualité, mais ce vendredi, parlons de l'inhumation de la chanteuse congolaise Marie Misamou au nécropole entre terre et ciel à Kinkole. Cette diva de la musique congolaise qui a développé également des talents dans le cinéma, le théâtre et la couture est décédée samedi 16 janvier dernier à l'âge de 41 ans à Kinshasa. Juste un commentaire.
Non, c'est que la patrie congolaise vient de perdre l'une de ses grandes vedettes de la chanson religieuse, du théâtre, et même du ménage. c'est la République doit pleurer cette dame-là, une perte immense. Ça, c'est un deuxième élément. Missamou est morte très jeune, 41 ans. C'est l'âge où quelqu'un produit maintenant pour la nation. Elle a passé sa vie à produire pour la nation congolaise. Donc pour nous, c'était un deuil. Je suis content que les médias ont quand même fait large écho de son décès. Et je souhaite que sa mémoire ne soit pas oubliée et qu'on puisse même élever un monument en sa mémoire.
Jean-Pierre Kayembe, journaliste à la radio-télévision du groupe L'Avenir RTGA, a un commentaire également sur l'inhumation, la disparition de Marie Missamou.
Oui, c'est une nouvelle qui avait en son temps glacé tous les enthousiasmes quand nous avons appris la disparition de la sœur Marie. La RTGA a même bouleversé ses programmes pendant ces deux jours pour rendre des hommages dignes à cette chanteuse. Marie, c'est une voix mélancolique qui caressait nos cœurs. C'est cette chanteuse que toutes les mamans adoraient, même les hommes. Et des mémoires de journalistes, je n'ai pas vu un mort susciter autant de foule
d'enthousiasme,
je voulais dire. Kinshasa a vraiment rendu des hommages dignes à Marie. Je souhaite que sa mémoire ne soit jamais oubliée et qu'elle repose en paix.
Avant que Gaston Mouchid ne nous dise comment à Kolwezi ils ont vécu la nouvelle de la disparition de Marie Missamou, Fidèle Moussangou, il y a également Gérard Kamanda Wakamanda qui a tiré sa révérence la semaine passée.
Ouais, ça, c'est un monument de la politique congolaise. C'est quelqu'un qui a joué un rôle. D'abord, c'est le seul Congolais qui a atteint un niveau international le plus élevé en étant secrétaire général adjoint de l'Organisation des Nations africaines. C'est parce que Mobutu, pour des raisons qui sont propres, dit son âme, on ne parle pas du mal des morts, n'a jamais voulu qu'il soit secrétaire général. Parce que le titre de secrétaire général a toujours été réservé aux pays francophones. Ça a commencé par la Guinée, c'est passé par le Niger, le Cameroun a eu ça deux fois. Vous voyez ? Et le Congo, qui a toujours été là, une grande puissance, n'a jamais eu ça, par la faute de Mobutu. C'est comme ça que, député, il l'a rappelé au pays, il l'a envoyé d'abord aux États-Unis, aux Nations Unies, et là, il a présidé un conseil de sécurité pour le problème des Malouines. C'était très important. Bon, ensuite, il est rentré ici, ministre des Affaires étrangères. Finalement, il a fini par être secrétaire général adjoint du MPR. Et le 24 avril 1990, il a choisi l'opposition où il a milité avec ses amis. Bref, donc c'est un grand commis de l'État, un homme politique intègre et puis une excellente diplomate que le pays vient de perdre.
Gaston Mouched, directeur général de la radio-télévision Manika, émettant de Kolwezi dans la province du Lualaba. Juste un mot, comment là-bas vous avez reçu la nouvelle de la disparition de Marie Missamou dont l'inhumation a eu lieu ce vendredi?
Comme vous le savez, Alain, la musique est un langage universel. C'est un moyen par lequel les gens se mettent ensemble. Et qu'elles chantent à Kinshasa ou ailleurs, à Kolwezi, les gens étaient tristes le jour que la radio-télévision Manika annonçait la mort de cette célèbre chanteuse de la musique chrétienne. Donc les gens étaient complètement touchés et ils ont suivi un peu loin ce qui se passe, les obsèques et tout ça. C'est vraiment pas une bonne nouvelle, surtout qu'elle est décédée à fleur de l'âge, hein. Et on ne s'attendait pas qu'elle meure de si tôt, elle qui avait encore du talent, qui donnait de la bonne musique, qui égayait le chrétien. Mais aussi, on a regretté la mort de Maître Gérard Kamanda, qui est un des Congolais qui était parmi les meilleurs sur le plan international. Lui qui connaissait mieux le monde international. C'était vraiment un grand expert que le Congo a perdu, hein, comme venait de le dire mon prédécesseur. Partout où il a été, Gérard Kamanda s'est montré profondément impliqué dans toutes les actions qui pouvaient contribuer à l'image de son pays, la République démocratique du Congo. Mais peut-être parce que j'ai la parole, je voudrais aussi vous dire que Kolwezi, en termes d'actualité, connaît actuellement la crise qui provient de licenciements massifs qui ont eu lieu il y a très peu de temps. Vous vous rappelez que plus de 1200 agents de KCC ont été remerciés. Ils ont arrêté à cause de la crise ou de la chute des cours de cuivre. Il y a plusieurs dizaines de sous-traitances qui ont aussi arrêté, ce qui fait qu'il y a énormément de chômage. Et aujourd'hui, l'implication directe est en train de se sentir. Les gens vivent vraiment la crise parce que Colosie, c'est une ville essentiellement minière.
Merci.
Mais si nous allons un peu plus loin, c'est-à-dire à 300 km de Colosie, dans la province du Haut-Katanga, l'actualité est dominée par la rupture du signal de deux chaînes de radio et de télévision. Je cite la chaîne de Nyota Télévision, Radio-Télévision et Mapendo. Donc il y a comme ça 180 agents qui sont contraints à aller au chômage parce que le ministre de l'Information a signé une lettre arrêtant le travail de ces journalistes.
Merci. Gaston Mouched, la RDC joue ce samedi en quart de finale face au Rwanda. Juste un pronostic.
Nous allons gagner. La RDC a beaucoup plus de chances de gagner ces matchs.
Avancez un score, s'il vous plaît, si c'est possible.
Ah oui, hein, 3 buts à 1
Merci.
Ou 2 buts à 0.
Merci.
C'est un pronostic digne d'un Congolais.
Jean-Pierre Kayembe, pronostic RDC-Rwanda.
D'abord, on a perdu un match amical il y a deux semaines. Même si on dit qu'il n'y a jamais eu 1-2. Mais je crois que pour le match de ce samedi, le Congo démocratique va l'emporter, même si le Rwanda a toutes les chances de l'emporter.
Un score?
Je préfère 1-0.
Fidèle?
Le Congo va gagner.
Un score également avant.
Ça fait au moins 4-0.
4-0. Merci beaucoup. Cela nous permet d'aborder notre premier thème de ce soir. En 15 ans de gestion de la RDC, le bilan du président de la République est plus que positif, estime Lambert Mende, porte-parole du gouvernement. Du point de vue sécuritaire, Joseph Kabila a réussi à pacifier le pays et il a réussi à démocratiser la RDC en permettant au peuple de s'exprimer librement grâce aux élections. Lambert Mende l'a dit à Berry Franklin Luchaka.
Tout d'abord, au moment où il accède au pouvoir en 2001, le président Joseph Kabila trouve un pays totalement déstructuré du point de vue de la sécurité. 15 ans après, ceci fait partie des souvenirs douloureux de notre histoire. Donc il a réussi à réunifier la République démocratique du Congo sur les 149 territoires que compte la République démocratique du Congo. Il n'y a plus que des opérations de police, appelons-les comme ça, pour la pacification définitive. Donc pour nous, c'est un bilan élogieux, un bilan plus que positif. Du point de vue politique, le défi auquel le président Kabila se confronte à son arrivée au pouvoir accidentellement, rappelons-le, en 2001, c'est le processus de démocratisation, c'est-à-dire redonner la parole au peuple, faire en sorte que plus une portion du pouvoir ne puisse être exercée autrement qu'à la suite d'élections. Nous avons bien sûr quelques problèmes ratés à cause des problèmes financiers pour la poursuite du processus, mais il a réussi à mettre en place le processus de démocratisation.
Notez que le bilan socio-économique de Joseph Kabila depuis son accession à la magistrature suprême est aussi positif. Lambert Mende en veut pour preuve la stabilisation du cadre macroéconomique, la stabilisation du taux de change. Fidèle Moussangou, journaliste et coordonnateur au journal Le Phare, le bilan des 15 ans de Joseph Kabila à la tête de la RDC est plus que positif.
Non, je suis désolé, il faut que je dise la vérité. Vous savez, la vérité libère, sous le plan politique. C'est un grand échec.
Pourquoi?
Trop de prisonniers politiques, Muyambo, Diomi Dongala, et j'en passe, tous les activistes des droits de l'homme qui sont arrêtés sans jugement. Il y a Vano Kibako, et pour une fois, en violation même de la procédure, un prisonnier civil est transféré dans un prison militaire. Ça, c'est grave, ça. Deuxième élément sur le plan politique, des multiples violations de la Constitution. Cette affaire des commissaires spéciaux, ça n'existe nulle part dans la Constitution. Et puis, les gouverneurs sont élus et non nommés. C'est un échec et ça fait une crise. Troisième élément, regardez les dialogues que tout le monde attend. Il veut se présenter comme le garant à qui on remet les travaux. Je dis non, vous faites partie du problème à résoudre. À cause de la Constitution qui dit que une fois non renouvelable, le mandat est une seule fois, c'est tout.
Alors, ça fait un élément. Maintenant, sur le plan politique, l'acharnement sur d'autres leaders politiques, l'agrader, c'est qu'on fait sur le pauvre Moïse Katumbi. On l'empêche de rentrer dans son pays avec son avion. Récemment, il a échappé à un accident qui donne l'air d'un attentat. Ensuite, on arrête ses camions. Il n'est pas commerçant. Il n'est plus commerçant. Il est actionnaire. Et il n'a jamais géré ses affaires. Vous arrêtez un trac avec des marchandises. Lui, il est transporteur. Allez arrêter le propriétaire de marchandises. Ça fait là, sur le plan sécuritaire, c'est un échec total. Le pays est toujours en guerre. Les Bakata Katanga au Nord Katanga. Regardez ce qui se passe à l'est de la République. Chaque seconde qui passe, une femme congolaise est violée. Petite, vieille. Chaque 5 minutes, il y a un Congolais qui est tué. Mais dites-moi, où se trouve l'armée congolaise? S'il y a une armée, pourquoi ne termine pas cette histoire? Nous avons l'histoire de la guerre au Congo. Tshombe a fini la rébellion qui a embrasé 3/4 de la population. Pourquoi aujourd'hui la sécurité n'existe pas au moment où les deux pays agresseurs bien connus vivent dans la paix totale? Le Rwanda organise le Tchad. Donc c'est un échec total.
Merci. Avant que l'on aborde le volet socio-économique, Jean-Pierre Kayembe, journaliste à la radio-télévision du groupe L'Avenir RTGA, Fidèle parle d'un bilan totalement négatif sur le plan politique et sécuritaire. Quel est votre point de vue?
Je crois que l'aîné devrait être honnête en mettant à l'actif de Kabila un bilan largement positif. Parce qu'il connaît en 2001, quand Kabila a pris le pouvoir, la mère Mendela dit, il n'y a pas très longtemps, le pays était divisé. Il y avait des républicaines. Roger Lumba avait sa république, Jean-Pierre Bemba et tous les autres avaient leur république. Kabila a réussi à réunifier le pays. Aujourd'hui, si on parle encore sur le plan sécuritaire de la guerre, c'est une autre forme de guerre devenue asymétrique. Mais c'est juste quelques poches de résistance. La situation quasi générale est sous contrôle de l'armée. Notre armée aujourd'hui qui a fait montre de ses hauts faits d'armes, notre armée qui est félicitée aujourd'hui, notre armée qui a réussi à mettre en déconfiture le M23 qu'il vous souvienne. Je crois qu'il faut par moment être honnête et reconnaître certaines choses, même si on sait que les choses ne sont pas positives de manière générale, mais il y a quand même une dose, il y a quand même quelque chose d'assez intéressant qu'il faut retenir à l'actif de Kabila. Sur le plan politique, Kabila a réussi, sur le plan démocratique, à organiser dans ce pays les premières élections démocratiques, libres, transparentes. Kabila a été un homme de dialogue à tel point qu'il a accepté le dialogue intercongolais, dialogue qui a accouché d'un gouvernement de transition. Pour la première fois à travers le monde, on a eu un pays dirigé par 5 personnes, un président et 4 vice-présidents, un gouvernement éléphantesque d'au moins 60 ministres. Mais c'est sous Kabila, tout ça c'était au nom de la paix. Kabila a réussi à négocier le retrait inespéré des troupes étrangères. Aujourd'hui, notre armée est à mesure, en dehors des troupes congolaises, de contrôler la situation générale. Sous Kabila, on a eu 2 fois les élections. 2 fois, peu importe les conditions dans lesquelles les dernières élections ont été organisées. C'est tout ça parce qu'on a toujours des gens qui veulent que les choses soient organisées, même de manière précipitée. Raison pour laquelle on a eu des élections que d'aucuns ont qualifiées de chaotiques. Mais Kabila a réussi à faire placer le pays aujourd'hui. La RDC est un pays ouvert, un pays considéré, la RDC a retrouvé sa place dans les concerts des nations.
Alors, quand Fidel Moussangou évoque le fait qu'il y ait trop de prisonniers politiques, des violations multiples de la Constitution, l'acharnement sur les politiques, est-ce que tout ça, ça ne constitue pas des épines dans le pied du président Kabila en termes de bilan?
Bon, je ne pense pas qu'un politicien soit au-dessus de la loi. Au-delà du fait qu'il est politicien, c'est un citoyen normal qui peut être jugé et condamné en ayant commis une infraction. À ce que je sache, il est un fait indéniable que les juges l'ont démontré et Diomi Dungala a violé. C'est normal qu'il croupisse en prison comme tous ces autres Congolais lambda. Pourquoi quand c'est un homme politique, on croit savoir qu'il doit être au-dessus de la loi? Et quand c'est un citoyen lambda, on veut qu'il soit condamné. Aujourd'hui.
Et toutes ces personnalités qui figurent dans des rapports où il est prouvé qu'ils ont détourné, qu'ils n'ont jamais été poursuivis parce qu'ils sont au pouvoir, est-ce que cela c'est aussi positif?
Il bénéficie de la présomption d'innocence tant que les juges n'ont pas démontré leur culpabilité. Il y a un rapport sur la table du procureur général général de la République. Il y a un rapport fait par le conseil spécial en charge de la lutte contre la corruption et consorts. On attend les conclusions de ces rapports. On attend les conclusions. Mais dès lors que le procureur n'a pas donné les conclusions de ces rapports, ces personnalités sont présumées innocentes. Et pour l'instant, je ne peux pas dire que ces politiciens ont détourné.
Gaston Mouchet, le directeur général de la radio-télévision Manica, émettant de Colusie dans la province du Lualaba, bilan largement positif, bilan largement négatif, bilan mitigé, quelle est votre perception?
Je ne dirais pas comme Fidel que le bilan est largement négatif, et non plus comme Jean-Pierre qui estime que le bilan est largement positif. Mais pour un pays de 2 345 409 km², avec une population estimée à 85 millions d'habitants, je me dis qu'il y a quand même des avancées qui ont été opérées. Hein, parlant de, sur les plans politiques, de l'organisation de premières élections démocratiques, Kabila, le président, a accepté, il est parmi les rares présidents au monde à avoir accepté de travailler avec ses anciens belligérants. Donc vous connaissez l'histoire de 1 plus 4. Et le pays, moi je me rappelle quand je faisais les documentaires, pour faire les documentaires sur le Congo, on avait besoin d'autour de 75 papiers, parce qu'on avait des républiques qui avaient différents noms. Mais aujourd'hui, on a un pays, on a une monnaie, et là c'est des points plus ou moins visibles des actions qui ont été menées sur le terrain. Donc sur les plans politiques, les élections ont été organisées par deux fois, mais cependant, il y a aussi un certain nombre de couacs, c'est-à-dire qu'il y a un peu comme l'excès de zèle du côté, surtout de la majorité, à ne trouver du bien que de leur côté et du mal chez les autres. C'est comme ça qu'on a parlé des gens qui sont en prison, qui n'ont pas été jugés. Certains, comme Vano, qui est un élu de Colusie, qui est actuellement amené dans une prison militaire. Ça, c'est des éléments qui essayent de mettre un tout petit peu des gens mal à l'aise. Donc le président de la République a un bilan, mais il faudra aussi qu'il tienne, parce que c'est lui finalement le garant de la Constitution, qu'il tienne à ce que autour de lui et les climats soient assainis, parce qu'il y a un peu trop de zèle. Vous connaissez par exemple que dans la province du Haut-Katanga, les meetings de l'opposition sont interdits, il n'y a pas de réunions qui sont tenues, et alors tout ça retombe sur le président de la République qui a l'intention parfois de faire marcher les choses, mais il faudra bien que l'environnement soit complètement assaini.
Alors, et sur le plan sécuritaire, Gaston, Fidel dit que le pays est toujours en guerre, Jean-Pierre parle de quelques poches de résistance, et de votre point de vue, y a-t-il eu des avancées ou le pays a stagné en 15 ans?
Oui, il y a eu des avancées parce que d'abord, on avait trois républiques dans une seule, et aujourd'hui, on a défait beaucoup de rebelles, mais il y a quand même des poches de résistance, comme on le dit. Nous ne pouvons pas dire que c'est une réussite à 100% parce que on va énerver les gens qui vivent à Beni. Ils sont tués tous les jours, les gens qui sont au sud et nord Kivu, qui voient tantôt les ADF Nalu, tantôt FDLR, qui viennent encore, qui continuent à les tuer, et c'est l'insécurité. Là-dessus, j'aimerais aussi mettre en point un accent sur la probité des Congolais. Vous savez que ce pays, il est grand, comme je venais de le dire. Il y a des militaires parfois qui détournent les rations de des officiers qui détournent la ration de militaires qui sont envoyés là-bas et ça n'avance pas et la population est en train de mourir. Là, il y a des efforts qu'il faut faire pour éradiquer complètement cette guerre parce que aussi longtemps que les gens continueront à mourir à l'Est, nous risquons de ne pas penser qu'il y a la sécurité, même si il y a eu beaucoup de groupes armés qui ont été défaits, mais il faut vraiment que la paix soit totale.
Fidel Moussangou, n'êtes-vous pas de ceux qui, selon certains observateurs, voient tout en noir? Dire qu'un bilan est largement négatif, n'est-ce pas présomptueux?
Écoutez, moi j'ai le malheur ou le bonheur d'être né avant l'indépendance. J'ai vécu l'indépendance. J'étais déjà âgé de 8 ou 9 ans. Donc j'ai vécu des guerres. Moi je suis né à Bukavu. C'est une ville martyre. J'ai perdu des oncles, des amis. Donc je connais la guerre et comment elle commence et comment elle se termine. J'ai vu des hauts faits. Je prends par exemple Tshombe. Le gouvernement de Kinshasa était incapable de mettre fin à la rébellion. On a appelé Tshombe. C'est ce qu'il a fait. Il a appelé des mercenaires, il a fait une diplomatie agressive, il a appelé la diplomatie, donc la Belgique, on a mis fin à la rébellion en l'espace de 6 mois. Il a pacifié tout le pays et il a organisé des élections. Maintenant, dites-moi aujourd'hui, Kabila a 15 ans, il est incapable de faire la paix. Revenons à la Bible avec l'histoire de la brebis. Le berger a rassemblé tout le troupeau, il a manqué une brebis. Il est descendu pour récupérer la brebis. Aujourd'hui, Kabila devrait, avec l'état-major général, les chefs des services de sécurité civile et militaire, s'installer à l'est. Il a à manger, à boire, il a autant de raisons qu'il veut. Suivre cette affaire et y mettre fin. Voilà l'histoire du berger. Tout le pays est en paix, sauf l'espace entre Goma et Arou. Mais ces gens se sentent abandonnés. Et là, maintenant, on parle d'un génocide contre le peuple nandais. Chaque jour. Et ceux qui les tuent sont connus. Ils parlent Kinyarwanda, ils parlent Kiganda. C'est connu. Deux, une diplomatie agressive, il devait saisir la Cour pénale internationale. Il y a trop de rapports de la MONUSCO, de l'ONU, qui incriminent les services de sécurité rwandais, ougandais, des chefs militaires rwandais, ougandais. Pourquoi Kabila ne saisit pas la Cour pénale contre ces gens? Trois, l'armée, là, je la vois. Les officiers nous dérangent des tympans avec des sonneries, avec des jeeps. Ils n'ont qu'à laisser battre à l'est, monsieur. Et ils sont payés pour ça. Ils ont juré pour ça. Kabila, Mobutu l'avait fait avec la guerre de Kolwezi. Il est descendu à Kolwezi avec l'état-major. Il a mis fin à
l'affaire. Et donc, vous demandez un peu plus d'engagement au président de la République.
Mais c'est ça le rôle qu'il a.
Mais
en quoi, Ernesto Confrère, en quoi la Constitution lui reconnaît les droits d'être le garant et les symboles de l'unité nationale? Alors maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait à Kinshasa?
Alors, sur le plan socio-économique, il y a la stabilisation du cadre macroéconomique, le panier de la ménagère qui fonctionne bien, Fidel Moussa.
Mon confrère, allez à la cité, regardez le nombre des échoppes. Celui-ci vend de Makayabo, l'autre vend du l'autre. Chacun vend à la cité, tout le monde est commerçant, moi-même également. Ma femme doit vendre pour tenir le coup, pour suppléer. Le salaire ne suffit pas. Nous vivons dans une économie informelle. Regardez la cité, l'homme vendeur. Ici, on vend de l'eau, là, du coca, là, c'est la bière, là, c'est les chicois. Ça veut dire que, oui. Leur discours d'équilibre macroéconomique, c'est pour les intellectuels, pas pour les peuples congolais. Allez à l'intérieur. Allez à l'intérieur, vous allez voir qu'on a la misère là-dedans. Regardez des villes comme Bujimaï, Kananga. Mais il n'existe plus rien. Les gens vivent de l'informel. On s'en couche. Les gens vivent de la cueillette et de la chasse.
Merci, Jean-Pierre Kayembe.
D'abord, quand Kabila a pris le pouvoir, les tissus économiques étaient par terre. Je voudrais, Alain, si vous permettez, que je dise des mots sur l'aspect sécuritaire évoqué par Fidel Moussangou tout à l'heure. Il demande plus d'engagement. Mais combien de fois Kabila s'est rendu à Beni? Combien de fois il a séjourné là-bas? Aujourd'hui, dans ce pays, nous sommes les seuls pays au monde qui contient un nombre le plus élevé des troupes des Nations Unies. Un nombre le plus élevé. C'est dans ce pays qu'on a vu pour la première fois les Nations Unies utiliser les drones de surveillance, une brigade spéciale d'intervention. C'est dans ce pays. Je voudrais lui dire que la guerre a changé. Ce n'est plus une guerre traditionnelle, une guerre asymétrique. C'est comme du terrorisme qu'on a un peu du mal à contrôler. Mais aujourd'hui, je suis sûr qu'avec des engagements, avec deux moyens disponibles, nous arriverons à mettre hors d'état des murs tous ceux qui troublent encore la quiétude, comme on l'a fait en 2013 pour l'M23. Pour revenir à l'aspect socio-économique, je crois que beaucoup de choses ont avancé. Il y a des avancées significatives. Aujourd'hui, sous Kabila, nous avons une monnaie stable. Sous Kabila, on a un taux d'échange le moins cher qui puisse exister partout en Afrique. Sous Kabila, nous avons atteint un degré très élevé de croissance économique, environ 1,4%. Aujourd'hui,
mais certains observateurs pensent que cette croissance n'est que virtuelle.
Ce n'est jamais automatique. Figurez-vous,
elle n'est pas visible dans les assiettes
d'où on vient. Vous connaissez d'où on vient. On vient de très loin. On vient d'un pays qui était déchiré, un tissu économique par terre. C'est maintenant que nous essayons de redonner encore de la confiance. Les banques reviennent, les investisseurs reviennent. C'est toujours un processus pour que la croissance soit inclusive. Il faut du temps. Ça ne vient jamais d'un coup de baguette magique, comme prétend bien le dire mon aîné fidèle tout à l'heure. Non, pas du tout. Il faut du temps. Aujourd'hui, les couleurs congolaises, les drapeaux congolais flottent encore dans les airs. Mais il y a longtemps que Air Zaïre n'avait plus survolé. Aujourd'hui, nous avons deux Airbus pour Congo Airways.
Matata promet d'en ajouter encore deux. Aujourd'hui, nous avons Transco. Il y a quelques années encore, l'accès au transport en commun à Kinshasa relevait d'un parcours des combattants. C'est un casse-tête. Aujourd'hui, il faut être honnête et reconnaître que beaucoup de choses ont changé. Et si on donnait encore du temps à ces régimes, je suis sûr que d'ici et à l'horizon 2030, beaucoup de choses pourront évoluer.
Gaston Mouchid, Jean-Pierre Kayembe dit que le gouffre était trop profond au point que tous les efforts fournis, quelquefois, ne semblent pas être perceptibles. Un mot sur l'aspect socio-économique.
Je suis bien d'accord que les gouffres, les Congo étaient tombés tellement très bas qu'il a fallu du temps pour redresser. En même temps, il y a moyen de le faire dans un temps record. Hein. L'Angola voisin nous l'a prouvé. On parle de la stabilité macroéconomique, taux d'échange qui a été stabilisé, la croissance économique. Et le problème sur lequel aujourd'hui un enseignant, il touche quoi? Il vit comment? Un fonctionnaire de l'État, il touche quoi? Il vit comment? Un policier, un militaire. Aujourd'hui, on a des agents SNCC qui attendent des mois et des mois, des dizaines de mois d'un paiement. On parle de 70 et 80. Chez nous, à Colosi, ils se sont même installés dans des camps en bâche parce qu'ils ne peuvent plus payer le loyer là où ils devaient être. C'est justement ça, à ça que devait se fier le gouvernement. Voir quelle est la vie sociopolitique de la population, les gens qui vivent. C'est bien de nous parler de cadre macroéconomique, c'est bien de nous parler de la stabilisation, de ceci ou de cela, mais il est important que cela bénéficie à la population. Donc il y a comme une sorte d'écart entre la vie quotidienne des citoyens et les discours du Premier ministre qui a toujours le travail qui a été accompli et tout ça. Donc si on peut, il n'est pas théoriser ces termes, essayer de le mettre en pratique et de faire de sorte que cette croissance puisse bénéficier à la population en payant les salaires, en essayant d'aider les gens à aller de l'avant. Parce que c'est qu'on ne sait pas sur ceci. Quand un fonctionnaire n'est pas payé, il se paye lui-même. Résultat des courses, on a un budget de 5 milliards pour 85 millions d'habitants. Et donc, ils sont en train de se servir à la base. Et dans la caisse de l'État, il n'y a pas grand-chose qui entre. Mais s'ils sont bien payés comme Mamouzé l'a fait, je crois qu'il y a moyen que cet argent serve à la République et la redistribution se fasse convenablement.
Merci Gaston Mouchid. Il nous reste près d'une dizaine de minutes pour terminer l'émission. Nous allons passer à notre deuxième thème. Le MSR, Mouvement Social pour le Renouveau de Pierre Lumbi, fustige l'arrêté du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur du 23 janvier dernier, portant enregistrement d'un autre parti politique avec comme dénomination Mouvement Social pour le Renouveau. Pour le porte-parole de ce parti membre du G7, il s'agit tout simplement d'un acharnement politique du camp adverse. Innocent Olinga.
Dans son arrêté, le vice-premier ministre Évariste Boshab justifie les nouvelles enregistrements du MSR par les jugements d'homologation du 26 novembre dernier rendus par les tribunaux des grandes instances de Kinshasa-Gombe. En effet, maître Yoko Yakembe avait saisi ces tribunaux pour solliciter un jugement d'homologation d'un procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du MNR, Mouvement pour la Nouvelle République, enceinte du MSR, assemblée tenue le 11 novembre 2015. À l'issue de cette assemblée générale, les membres du comité national avaient décidé de recouvrer l'ancienne appellation de leur parti, c'est-à-dire le MNR, et de retirer la couverture juridique accordée au MSR depuis 2006, avec les conséquences politico-juridiques contenues dans les 10 procès verbales. Évariste Boshab, qui enregistre les nouveaux MSR le 23 janvier dernier, n'abroge aucune disposition antérieure dans son arrêté, ce qui crée, d'après quelques juristes contactés par Radio Kapi, une sorte de confusion.
Merci Innocent Olinga. Jean-Pierre Kayembe, vous êtes journaliste à la radio-télévision du groupe L'Avenir RTGA, le feuilleton MSR, on y perd et sa tête et son latin.
Bon, je crois que les choses sont aussi simples comme de l'eau de roche. Cher Alain, si on est logique et légaliste, Pierre Lumbi doit cesser de clamer haut et fort qu'il est du MSR. En fait, depuis qu'il a adhéré au G7, qui est devenu G6-1, parce que le MSR n'y fait pas partie, Pierre Lumbi sait qu'il trône. On sait que le MSR légal est du côté
de la majorité présidentielle, le MSR reconnu, n'a jamais été dans, je sais, encore moins dans l'opposition. Et donc, quand vous demandez que ce soit légal, bon, mais je vous renvoie au dernier arrêté du ministre Bochab.
Qui porte à confusion, hein, qui plante un décor très confus selon certains juristes.
Non, il n'y a pas de confusion parce qu'on sait que le parti il a été créé en 2005. Au même moment, on procédait à l'enregistrement de partis et des candidats pour les élections. Le parti n'a pas pu faire de démarches pour obtenir son agrément. Alors, c'est dans cette folie que le MSR a continué à exercer. Eh ben, quand l'autre parti, l'aile qui est restée fidèle et loyale à Joseph Kabila, a vu qu'il y avait confusion, c'est pourquoi il était temps, surtout avec la dernière assemblée du MNR, il était temps de pouvoir recourir auprès des services compétents et retrouver sa régularisation. Donc aujourd'hui...
En tant que MNR et non MSR.
Et là, c'est en tant que MSR, en tant que MSR. Le parti a été enregistré en tant que MSR.
Quand vous lisez le jugement, le MNR demande de retrouver sa configuration d'antan en tant qu'MNR et non MSR.
Bon, non mais depuis longtemps, le MSR n'évolue pas sous les labels du MNR. Le parti n'utilisait que sa couverture légale. D'ailleurs, je suis content parce que Moïse Ndozang et ses compères sont en train de comprendre. Je n'ai pas vu depuis deux jours les drapeaux du MSR à l'ancien bureau. Donc, ce qui prouve qu'ils ont compris qu'ils ont perdu la bataille. Et donc, avec toutes les conséquences des droits qui s'imposent, ou ils seront invalidés, ou ils réintègrent le vrai MSR.
Fidèle Moussangou, journaliste et coordonnateur au journal Le Phare, qu'est-ce que vous répondez à ces observateurs qui pensent qu'il s'agit simplement d'un acharnement politique?
Écoutez, il y a deux versions des faits. Et moi, en tant que journaliste, donc historien du présent, j'en parle en disant ceci. En 2006, Kabila, avec ses stratèges Lundi Pierre et feu professeur Samba Kapoto de Rez Mémoire, veulent élargir la base électorale de Kabila. On trouve qu'il faut créer un autre parti que le PPRD, parce que Guillaume Samba Kapoto était du PPRD. Alors, Loum n'avait pas de parti. Loum lui dit, non, mais j'ai un ami, Maître Yoko Yakembe, qui est d'accord avec moi pour faire une assemblée générale pour que, comme le ministère de l'Intérieur ne donne plus d'agrément, nous allons maintenant utiliser son numéro d'agrément en faisant une assemblée générale, on change de parti. Il s'est tenu une assemblée générale du MNR. Le MNR a procédé au changement du nom, mais en gardant le numéro d'agrément. Ça, c'est juridiquement faisable. C'est comme vous. Vous voulez changer de nom, pour des raisons qui sont propres, vous allez voir le juge, et on fait un jugement supplétif. Mais vous gardez votre identité physique. Vous avez toujours Alain Irung. Même là, vous dites, non, Irung, c'est comme l'histoire de France, là-bas. Le général est Ducumont. Hein? L'histoire de Guillaume Descumont, là, qui faisait rire les gens, il a changé de nom. Alors on dit, ben, mais vous restez toujours physiquement. Il y a eu une assemblée générale à laquelle a participé Maître Yoko Akembe.
En bonne et due forme.
L'MNR s'est transformé en MCR. Et on a écrit au ministère de l'Intérieur pour dire changement avec un jugement supplétif. Les documents seront maintenant exhibés prochainement. C'est comme ça que Lumbi a été proclamé président. Et MCR est allé aux élections 2006, a gagné beaucoup de députés nationaux provinciaux. Sous le label de la majorité présidentielle à l'époque, Alliance pour la majorité présidentielle. Donc avec la bénédiction de Joseph Kabila. Maintenant, curieusement, en 2011, l'MCR Yoko Yakembe était toujours vivant. Il n'est pas mort. L'MCR va aux élections, gagne des députés nationaux. Toujours dans le cadre de la majorité présidentielle. Kabila présent, Samba est mort. Mais la bénédiction descend parce qu'il était l'initiateur. Aujourd'hui, parce qu'il y a des problèmes politiques, alors Yoko Yakembe ressuscite. Oh, c'est mon parti. Admettons cette version. Maintenant, qui est fautif? On a ouvert la boîte à Pandore, donc à partir de Kabila est fautif. Il a couvert une forfaiture. Il est fautif. Il doit être poursuivi pour forfaiture. Samba Kapoto, condamné par contumace. Et tout le monde, le Yoko, le Lumbi, condamné le même bac. Mais si on prend la procédure telle qu'elle s'est faite, c'est Lumbi qui a raison, il faut condamner Yoko Yakembe. Il faut condamner l'acteur ministre de l'Intérieur. Qui fait une forfaiture? Parce que puis c'est la première fois. Je vous donne un exemple. Nous sommes à Sand City. C'est Tshisekedi avec l'UDPS qui signe l'accord de Sand City, qui crée une nouvelle légitimité entre tous les acteurs politiques et le parti politique. Kibasa était là, mais comme il n'avait pas été accepté, il a même écrit pour dire, je laisse à mon frère Tshisekedi le soin de diriger l'UDPS. L'autre dit, maintenant, arrivé ici, ah non, il y a UDPS Kibasa. Le ministre de l'époque, Théophile Mema, a violé la loi. Dédoublement des partis. Aujourd'hui, maintenant, pour des raisons politiciennes, l'UNADEF est telle. Alors, maintenant, ils sont les premiers à faire des dédoublements. Mais je pose la question fondamentale. Est-ce que moi, Fidel Moussango, est-ce que je peux créer le PPRD libéral? Est-ce que nous ne voulons pas me chercher avec un char de combat puis m'envoyer un guéga? C'est vous dire que y a, maintenant la vérité éclate. Merci. Et ça éclabousse tout le monde, à commencer par le président de la République.
Merci. Il nous reste au moins de 4 minutes. Gaston Mouché, le directeur général de la radio-télévision Manica, émettant de Colouisi dans la province du Lualaba. Un commentaire sur le feuilleton MSR. Et...
Bon, disons, c'est triste. Hein, c'est triste de constater que nous en sommes arrivés là. Donc aujourd'hui, Yoka pouvait créer un parti, ce qui est tout à fait légal, et avancer. Maître Yoka, oui, parce qu'actuellement, que nous allons avoir, on va devoir assister à une guerre. Avec les élus des MSR, tout le monde sait que les MSR, c'est une composante politique importante dans ce pays. Et on va avoir cette guerre politique qui, Dieu seul sait où est-ce que ça va nous amener. Nous avons par exemple l'UNADEF qui a été, l'UNAFEC qui a été dédoublée aussi. Il y a aujourd'hui deux ailes UNAFEC et l'UNADEF. Avant-hier, nous avons le Christian Mwando Simba a déploré que la douane ait confisqué autour des 40 000 polos et chapeaux pourtant mention UNADEF. Au niveau de Mokambo. Et donc, il y a comme une sorte d'acharnement aux partis qui, aujourd'hui, sont dans l'opposition. Alors que on devait travailler ensemble, parce que la majorité a aussi besoin d'une opposition qui s'exprime pour l'aider à aller de l'avant, lui dire quelles sont les failles de manière à les corriger et aller de l'avant. On ne peut pas avoir un pouvoir totalitaire. On ne peut pas diriger avec un parti État comme à l'époque du Inter.
Merci.
L'opposition joue aussi son rôle dans le développement de la nation.
Merci.
Il faudra, à mon avis, que le pouvoir en place essaye de mettre un petit peu d'eau dans son vin. Tout le monde ressent vraiment l'acharnement quand on parle d'un nouveau MSR. Tout à l'heure, là, vous avez suivi Jean-Pierre qui dit non, ils ne peuvent pas se réunir et c'est fini, ils vont laisser. Mais est-ce que ce n'est pas des problèmes qu'on va créer? Il y a combien de députés de MSR?
Merci, si
vous estimez, comme Jean-Pierre estime qu'il faut le mettre à côté, mais est-ce que c'est la paix qu'on est en train de rechercher ou bien on va se faire des ennemis?
Merci.
C'est ça qu'il faut éviter, à mon avis.
Merci, Jean-Pierre Kayembe. Comment décrisper le climat politique en un mot?
Bon, je crois qu'il faut que la loi tranche, hein, il faut que la justice tranche. Je crois qu'il y a toujours une voie de recours. Hein, s'ils se sentent lésés, ils n'ont qu'à l'injustice.
Fidel Moussango, comment décrisper le climat?
Les conséquences directes, c'est qu'il faut invalider toutes les élections auxquelles l'EMC va participer en 2006, en 2011. Alors, qui va l'accepter?
Merci, chers confrères, d'avoir participé à cette émission. La tribune de la presse est terminée pour ce soir. Réalisation Kéline Couté, mise en onde Jean-Noël Mokondo, supervision Julien Nyamouini, présentation et coordination Alain Rong-Mouchinj. Au revoir.